Studio Tamani, voici nos informations en français.
Merci de votre constante fidélité au programme de Studio Tamani. Monsieur Dan, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. L'Allemagne prévoit de suspendre sa participation au sein de la MINUSMA jusqu'à nouvel ordre. L'annonce a été faite vendredi dernier par la ministre fédérale de la Défense allemande. Le gouvernement du Mali, pour sa part, souligne que l'Allemagne doit plutôt se conformer au nouveau mécanisme établi avec la MINUSMA. Enlèvement, assassinat ciblé ont eu lieu dans plusieurs localités du pays ce week-end. Au même moment, à Gao, des manifestants lancent un ultimatum de 72 heures à la force Barkhane pour quitter la ville. Ils accusent les soldats français d'être de connivence avec les groupes djihadistes. La date de proclamation des résultats du baccalauréat 2022 n'est toujours pas fixée. Le ministère de l'Éducation nationale précise également que la correction des copies n'est pas effective dans toutes les académies d'enseignement. À la présentation, Mariam Meiga, Gagné Kanté assure la technique. L'Allemagne a annoncé ce vendredi suspendre jusqu'à nouvel ordre la majeure partie de ses opérations militaires au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU MINUSMA. Le gouvernement allemand dénonce un nouveau refus de survol du pays par le gouvernement de transition. Du côté du gouvernement, on affirme que l'Allemagne est plutôt invitée à se conformer au nouveau mécanisme d'approbation des rotations des contingents militaires et policiers au sein de la MINUSMA. Cette décision intervient alors que le retrait annoncé de l'Égypte de la MINUSMA commence ce lundi 15 août. Omar Ouaïgalo.
Le gouvernement malien a une nouvelle fois refusé d'autoriser un vol prévu aux ordis qui devrait assurer une rotation des personnels, a expliqué le ministre allemand de la Défense. En conséquence, nous suspendons jusqu'à nouvel ordre nos opérations de reconnaissance et les vols de transport par hélicoptère, car il n'est pas possible de soutenir la MINUSMA sur le plan opérationnel, a-t-il ajouté. Une décision prise au moment où l'Allemagne avait décidé de proroger d'un an le mandat de ses troupes militaire au Mali, suite au retrait de la France. Ces hommes devraient passer de 1100 à 1400 soldats. Le gouvernement réfute ces allégations. Le ministre malien des Affaires étrangères parle de nouveaux mécanismes pour le survol de l'espace aérien. Selon Abdoulaye Diop, l'Allemagne est appelée à se conformer au nouveau mécanisme d'approbation des rotations pour des impératifs de sécurité nationale. Cette décision intervient au moment où l'Égypte suspend temporairement la participation de ses soldats à la mission de l'ONU au Mali MINUSMA. Cette suspension commence à partir de ce lundi 15 août pour une durée indéterminée.
Toujours sur le même sujet, le retrait de ces deux contingents n'est pas une bonne chose dans l'état actuel de la situation sécuritaire au Mali, affirment certains spécialistes. Ils précisent que même s'ils ne participent pas à la lutte contre le terrorisme, ils sont une force d'interposition. Ibrahim Soumaré est analyste des questions sécuritaires. Il est joint par Omar Ouaïgalo.
Ces deux forces sont des forces qui participent dans le cadre de l'interposition. En tous les cas, une chose qu'il faut tout de suite dire, c'est que ces deux forces utilisent le feu qu'en cas de légitime défense réelle. Mais ce n'est pas des forces engagées pour lutter comme lutte notre armée nationale contre les groupes armés terroristes. Alors donc, ils font de la prévention, ils s'occupent des populations, etc. Mais c'est pas une bonne chose dans l'état actuel de la situation sécuritaire de notre pays que ces deux forces-là, l'Égypte avec qui on a eu d'excellentes relations, même dans la création de notre armée, et l'Allemagne qui a été parmi les premiers à ouvrir une ambassade ici, que ces deux forces-là quittent véritablement le Mali.
La mission onusienne du Mali MINUSMA a annoncé le week-end la reprise des rotations des contingents militaires et policiers dès ce lundi 15 août. Dans le communiqué, la MINUSMA précise que des nouvelles procédures ont été convenues avec le gouvernement de la transition le 1er août dernier. Ces rotations des contingents au sein de la MINUSMA ont été suspendues le 14 juillet dernier suite à l'arrestation de 49 militaires ivoiriens qualifiés par le gouvernement malien d'être des mercenaires. Justement, s'agissant toujours des soldats ivoiriens détenus au Mali, ils ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Ils sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État. Et dans la foulée, le président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, effectuera ce matin une visite de travail à Bamako. Le président Assimi Goïta et son hôte Macky Sall vont échanger sur les sujets d'intérêt général des deux pays, nous dit une source à la présidence. Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Ce week-end encore, des incidents sécuritaires ont été signalés dans plusieurs localités du pays. Il s'agit d'assassinats, d'enlèvements et d'attaques dans les régions de Tumbutu, Gawé et Menaka. Par ailleurs, l'opération Barkhane a annoncé avoir neutralisé des combattants djihadistes aux environs d'Ansongo. Les détails avec Hawa Berthe.
Un banquier a été assassiné ce samedi en début de soirée à Tombouctou par des hommes armés non identifiés. Selon des sources locales, les assaillants étaient sur une moto. Les causes de l'assassinat restent inconnues selon les mêmes sources. Au même moment, un commerçant de pièces détachées de nationalité nigériane a été enlevé à Gao par des hommes armés à bord d'un véhicule. C'était aux environs de 16h dans sa boutique au quartier Aljana Badja. Les causes de son enlèvement sont toujours inconnues. Toujours à Gao, deux individus armés non identifiés sur une moto ont ouvert du feu sur les deux combattants qui gardaient un vendeur grossiste d'or devant sa résidence. L'incident s'est déroulé le vendredi dernier à 13h au quartier Djoulabougou. Le bilan est de un mort et un blessé grave. Les bandits ont également emporté un fusil et de l'argent. Par ailleurs, un communiqué de la force Barkhane annonce avoir tué deux combattants djihadistes. C'était au cours d'une opération de sécurisation menée aux environs de la ville de Tasiga, dans le cercle d'Ansongo.
Restons dans le nord du pays où plusieurs dizaines de personnes ont manifesté ce dimanche à Gao contre l'opération française Barkhane. Ces manifestants accusent les soldats français d'avoir soutenu les groupes terroristes lors de l'attaque contre le camp des Tessites, ayant fait 42 soldats maliens tués. Ils exigent de Barkhane son retrait définitif de Gao d'ici le 17 août prochain. Abdul Karim Samba, porte-parole des manifestants, est joint par Imirana Kilomaïga.
Parce que si Tessite est tombé aujourd'hui par la complicité comme on a fait des forces étrangères, demain ça serait quelle localité? Il y a une tension qui existe entre le Mali et la France, donc il faut faire regretter le pouvoir de transition et les décisions qu'ils ont prises contre la puissance qui est la France. Donc aujourd'hui, il est plus qu'important quand même de se mobiliser et de dénoncer cela. On ne va pas quand même croiser les bras pour les regarder. Il faut dénoncer, il faut demander leur départ. C'est la date butoire comme on a fait. 17 décembre. Dépasser ce délai, et les populations vont se mobiliser pour assiéger la force Barkhane afin qu'ils prennent toutes les dispositions pour laisser à l'image.
La population initiatrice de cette marche a-t-elle de preuves incriminant la force Barkhane de l'attaque contre l'armée à Tessite?
Le gouvernement, dans une déclaration officielle de l'État, a confirmé une expertise étrangère. Nous, ça nous suffit largement comme on appelle comme preuve palpable.
Sur un tout autre sujet, depuis quelques jours, les populations se posent des questions sur l'état de santé du chef du gouvernement de la transition. Si pour certains internautes, le docteur Choguel Kokalamaïga est gravement malade, la primature indique que le premier ministre se repose et reprendra bientôt le service. Draman Maïga nous en dit plus.
Docteur Choguel Kokalamaïga se porte bien. C'est du moins ce qui ressort d'une publication faite sur la page Facebook de la primature ce week-end. Le premier ministre est mis en repos forcé par son médecin, indique la primature. Elle l'explique par 14 mois de travail sans répit. La primature rassure également que le premier ministre reprendra ses activités la semaine prochaine, Inch'Allah. Sur les réseaux sociaux, certains s'inquiètent. D'autres disent même que le chef du gouvernement serait hospitalisé des suites d'un accident vasculaire cérébral. Une source proche du docteur Choguel Kokalamaïga, jointe par téléphone, refute cette information. Son médecin lui a même demandé de laisser de côté son téléphone pendant ses jours de repos, nous a-t-elle confié. Rappelons que docteur Choguel Kokalamaïga est âgé de 64 ans. Il dirige le gouvernement depuis le 7 juin 2021.
Parlons à présent des résultats des examens de fin d'année. Celui du bac n'est toujours pas, la correction des copies du bac 2022 n'est toujours pas effective. Elle prendra fin dans 3 ou 4 jours. C'est du moins ce qu'a déclaré le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Kinan Ag Gadeda regrette un retard de correction de certaines académies d'enseignement. Il a été joint par l'Alecha Wallet Infa.
Pour le moment, nous sommes dans les différentes activités des secrétariats. Comme vous le savez, le secrétariat du baccalauréat, ça prend du temps. Il y a plusieurs étapes et chaque étape est importante parce qu'il faut faire l'activité, il faut contrôler à plusieurs fois avant de laisser passer à l'activité suivante.
Quelles sont les académies qui sont en retard pour la correction?
Aujourd'hui, jour d'aujourd'hui, beaucoup d'académies ont terminé, mais il y en a encore les grosses académies telles que celles de Bamako ou de Chikasso qui n'ont pas encore totalement terminé.
À quand le résultat? Quel est le pourcentage?
Nous pensons que dans 3 ou 4 jours, toutes les académies auront terminé les différentes activités des secrétariats et on pourra en ce moment dire voici les pourcentages que nous avons et voici à quelle date on peut proclamer les résultats.
C'était là la réaction de Kinan Agadeda, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Du sport à présent, l'AS Mandou de Bamako s'est envolé pour le Libéria où le club prendra part aux éliminatoires pour la Ligue des champions féminines. Le tournoi est prévu du 17 au 21 août 2022 à Monrovia, dans la capitale libérienne. Le club champion du Mali tentera de garder son titre face aux Libériennes du club GFC et les Sénégalaises de l'Union sportive des Parcelles Assainies. La phase finale de cette deuxième édition de la Ligue des champions féminines de la CAF aura lieu au Maroc en octobre prochain. Parlons à présent de basketball. Le Mali, champion d'Afrique des moins de 18 ans en basketball féminin, les Aiglons ont battu le week-end l'Égypte en finale 86 à 54. En plus du sacre, l'équipe malienne a remporté quelques distinctions individuelles. Le point avec Madougou Aghamada.
Le Mali vient de reconquérir le titre perdu il y a 2 ans face au même adversaire, l'Égypte. Dans ce duel pour le titre, les Maliennes ont été les plus habiles au panier. Elles ont remporté les 4 cartons du match pour l'emporter au final 86 à 54. La Malienne Maimouna Haïdara, capitaine de l'équipe, a fait la meilleure prestation de la finale avec 22 points et 12 rebonds. Elle a été élue sans surprise meilleure joueuse du tour. Sa coéquipière Badjaran Doumbia termine meilleure tripointeuse du tournoi. A noter que l'Égypte et le Mali, dans cette catégorie d'âge, se partageant tous les titres depuis 2014, avec un avantage de 3-1 pour le Mali. Les deux nations représenteront l'Afrique au mondial de leur catégorie en Espagne. Par ailleurs, le coach du Mali, Souri Diakité, a affirmé que son objectif prochain est de jouer la finale de ce mondial des moins de 19 ans d'âme.
Un homme toujours en basketball, le Mali a terminé à la 3e place de l'Afrobasket des moins de 18 ans. Pour le match de classement, les Aiglons ont battu leurs homologues de l'Angola sur le score de 79 à 54. Parlons maintenant des neuf ans de Studio Tamani. 19 août 2022, 19 août 2013, 19 août 2022, Studio Tamani aura bientôt 9 ans. 9 années de programme radiophonique pour la paix, la réconciliation et renforcer le dialogue entre les Maliens. Entre consolidation des acquis et de nouveaux défis à relever, l'équipe du projet Studio Tamani œuvre pour une information libre et indépendante au service des populations. Le reportage de Koumafin Keïta.
Cela fera 9 ans, c'est 19 août que vous attendiez. Ce jungle annonça le journal de Studio Tamani. Le média a démarré modestement. Il a donné la chance à des hommes et femmes de divers horizons de donner des informations en 5 langues aux Maliens en prônant les dialogues et la réconciliation. Omar Waïgalo, présentateur du journal Peul, a parlé pour la première fois au micro à Studio Tamani.
C'est le représentant de la Fondation Hirondelle qui m'avait contacté et je faisais les magazines en Foufou de plus les traductions. C'est comme ça qu'ils m'ont engagé en tant que présentateur en langue Foufou de. Paix à son âme, il y avait Bokar Souris Traoré qui était là, celui qui me coachait en ces temps. C'était ma première fois même d'être dans un service.
À l'instar de Omar Waïgalo, Studio Tamani s'est donné le pari de former ou de parachever la formation de certains journalistes. Sita Sidibé est passé de stagiaire à pigista.
Je suis venu à Tamani en tant que stagiaire. Après ce stage, je suis aujourd'hui journaliste pigiste à Tamani. Je parlais à la radio auparavant et c'est à Tamani que je me suis perfectionné en traduisant toutes les éditions en langue peul.
Studio Tamani œuvre donc depuis 9 ans pour une information libre et indépendante au service des populations. Certains auditeurs ne cachent pas leur satisfaction.
Grâce à Studio Tamani, on a de larges informations.
Ils passent l'information dans la majorité des langues, quelles qu'en soient en Bamanaka, en français, en tamashek, etc. Vraiment, c'est extraordinaire.
C'est bon radio, il y a bon émission, il y a aussi les gens de travail qualité.
Sur le plan information,
aux Maliens, là, on est bien servi.
Sur le plan sanitaire, sincèrement, en tant que médecin, il contribue beaucoup dans le cadre de l'information, la communication, la santé.
À noter que pour ce 9e anniversaire, Studio Tamani, en collaboration avec l'URTEL, organise un panel sur le thème « Sécurité des hommes et des femmes de médias dans un contexte malien marqué par une crise multidimensionnelle ». La rencontre aura lieu ce vendredi 19 août à Nevers à la Maison de la Presse sous la présidence du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Maître Aruna Touré.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez pas car l'info continue. Le magazine Parlons de l'environnement s'intéresse aux ordures qui prennent de plus en plus de la place dans de nombreux marchés à Bamako. C'est une réalisation de Mahaman Babakunta.
Le magazine Parlons de l'environnement.
Araïda, ce lieu de commerce très fréquenté par les Sotromois aussi est en train de devenir un dépotoir. Et les déchets proviennent de plusieurs endroits, notamment les quartiers environnants, témoignent des commerçants rencontrés sur place.
Ces ordures sont là depuis la fête de Tabaski. Bien vrai que c'est le travail du gouvernement, mais nous aussi, nous avons notre rôle à jouer. Nous sommes tous des commerçants ici. Il suffit seulement de cotiser 100 ou 200 francs chacun pour faire dégager ces ordures.
Mais l'ozone, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'ozone qui devait prendre les ordures, ramasser. Vraiment, c'est honteux. L'ozone devait venir prendre les ordures immédiatement. Et le ministre de l'Intérieur, donc il n'a pas vu ça? Ça, c'est pas bon.
Aujourd'hui, le cas d'ordures nous dérange vraiment. Que ce soit les vendeurs, les commerçants, les acheteurs et nous-mêmes, les passants aussi.
Si nous avions les moyens, nous n'allons pas venir nous asseoir à côté de ces ordures. On fait de notre mieux pour les dégager.
Pourtant, il y a de cela quelques jours, des actions avaient été menées pour ramasser les ordures au niveau de quelques artères. Cette initiative a permis d'évacuer 2800 mètres cubes de déchets, nous dit Bassi Koulibaly, chef de division assainissement à la direction régionale de l'assainissement et du contrôle de la pollution et des nuisances de Bamako.
Par rapport aux activités du 5, du 6 et du 7, là, il y a aussi l'axe d'Abanani qui était concerné par les évacuations. Et cela était sous la responsabilité de la mairie du district à travers la DECIVA. Et ces interventions sont beaucoup fréquentes comme les gens le pensent maintenant. Et ça se voit aussi. Mais c'est uniquement compte tenu de l'enveloppe disponible au niveau du département. C'est le programme d'urgence. Si l'enveloppe permet de faire certaines évacuations, on le fait.
Mais ce n'est pas seulement au Araïda. À la rive droite du district de Bamako, notamment au marché de Bako-Djikoroni, de commerçants et clients dénoncent également l'odeur insupportable produite par les déchets, surtout en cette période hivernale.
Le marché est vraiment sale. Certains clients même achètent du sable, le mettent devant leurs marchandises pour faciliter l'achat aux clients. Moi-même, je marchais dans la boue. Ils déversent leurs ordures dans les fosses.
Le marché de Djikoroni est très sale. Tu vois de la boue partout. J'ai même acheté du gravier jusqu'à 1000 francs.
Il va falloir que la mairie au moins essaie d'initier les gens sur la propriété pour que les gens puissent au moins connaître la valeur de la propriété afin que nous luttons contre cette insalubrité.
La direction régionale de l'assainissement du district précise toutefois que les citoyens ont leur part de responsabilité dans cette insalubrité. Bassi Koulibaly, chef de division assainissement à la direction régionale de l'assainissement et du contrôle de la pollution et des nuisances de Bamako.
Je tiens à vous dire d'abord que le ministère de l'Environnement est là seulement pour appui, conseil et orientation. Nous n'avons pas vocation d'évacuer les ordures de Bamako. Cela est dédié à une société qui est Ozone. Et Ozone est en arrêt de travail depuis quelque temps. Et ajouter l'incivisme de la population, nous avons appris aussi que le CP, c'est-à-dire le dépôt de transit de la commune 2, qui est beaucoup plus actif, qui reçoit 1500 à 2000 mètres cubes de déchets par jour, est fermé au GIE
pour cause d'évacuation par une association. Donc, allez savoir, l'incivisme aidant, c'est possible que les ordures se trouvent un peu partout.
Ces propos sont corroborés par des environnementalistes. Youchiaou Traoré souligne aussi que ces phénomènes impactent non seulement les activités commerciales, mais aussi polluent l'environnement.
La population dépose des déchets de façon anarchique partout et même derrière les symboles de l'État ou dans des endroits visibles. Tout comme, regardez bien devant le Raïda et derrière l'Assemblée, au beau milieu du grand marché de Bamako, sur le boulevard du peuple, en face du marché de Médine. Et partout comme ça, c'est sale et ça pue. Et qui jette ça? Ce sont nous, les populations. Mais ça affecte qui en premier? C'est nous. Parce que nous avons les mouches et les moustiques là qui rentrent dans nos familles, qui piquent nos enfants et on sent ces mauvaises odeurs. Ça affecte l'air, l'environnement.
Il faut noter qu'à Bamako, chaque habitant produit environ 1 kg de déchets par jour selon la direction régionale de l'assainissement et du contrôle de la pollution et des nuisances de Bamako. C'est ce qui met fin à ce magazine « Parlons de l'environnement » réalisé par Mahamane Babakunta. À la semaine prochaine pour un autre numéro.